Chapitre 34. Le Grax avait survécu à la mort au rat, mais le poison n'avait pas laissé son cerveau indemne. Tantôt, il se lançait dans un soliloque totalement incohérent qui s'achevait en imprécations et menaces. Tantôt, il semblait totalement absent, comme si toute vie s'était éteinte dans sa grande carcasse, et restait des heures immobile, assis sur le fauteuil en face de la baie vitrée, le regard dans le vide. Alice s'était approchée une fois pour lui dire que le repas était servi. Il avait réagi avec une soudaineté et une violence inattendues, la saisissant par le poignet et la plaquant au sol. Il s'était ensuite laissé tomber sur elle et l'avait étranglée. Elle avait cru sa dernière heure arrivée. Ses pensées s'étaient peu à peu effilochées, puis le Grax l'avait inexplicablement relâché et fixé un long moment avec un rictus démentiel. Il avait sans doute estimé que le moment n'était pas encore venu de la tuer. Il voulait continuer de jouer avec elle, la voir se débattre entre ses griffes. Il n'avait fait aucune allusion à sa tentative d'empoisonnement, mais il l'avait manifestement jugée coupable et avait décidé d'appliquer la sentence avec la cruauté et la perversité qui le caractérisaient. Elle ne pouvait plus utiliser le reste de la poudre. Il ne mangeait ni ne buvait rien que Théo n'eût au préalable goûté. Les repas se déroulaient désormais selon un rituel immuable. Elle apportait les assiettes pleines sur la table, le Grax les changeait de place, un peu comme on rebat les cartes, puis il ordonnait à Théo de goûter. Et il attendait quelques minutes, ses yeux de lémurien rivés sur le garçon, avant de commencer lui-même à manger. Il était de temps à autre pris de spasmes et de vomissements, réplique décroissante de la crise qui avait suivi son empoisonnement. Il s'allongeait alors dans son lit, en gardant contre lui sa petite fourche à trois dents. Zoé, qui s'en était approchée avec un peu trop de témérité, avait failli recevoir les pointes métalliques dans la poitrine. Il ne perdait jamais tout à fait conscience, comme un fauve, toujours sur le qui-vive. Alice avait supplié sa fille d'éviter les provocations, mais Zoé ne pouvait s'empêcher de lui décocher de temps à autre des piques, qu'il semblait parfois ne pas entendre, et qui parfois le mettaient dans des fureurs proches de l'hystérie. Elle redoutait à chaque instant qu'il perde définitivement la tête et commette l'irréparable, et elle avait pour cette raison demandé aux enfants de maintenir tant bien que mal les tours de garde. Les blizzards, de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, se retiraient en abandonnant d'épaisses couches de neige. Elle se superposait, se tassait et se transformait en une glace compacte qui atteignait au milieu de la cour intérieure une hauteur d'1,30 m ou 40 m. À plusieurs reprises, Zoé et Théo avaient cru discerner des mouvements le long des murs, de simples illusions d'optique engendrées par la nuit, le vent, la densité des flocons et leur propre fatigue. Jamais Alice n'avait ressenti un tel sentiment d'isolement. Le feu de Dieu paraissait flotter dans un vide entouré de ténèbres et de glace. Un peu plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis le début du cataclysme, et même si leurs ressources s'avéraient suffisantes, ils perdraient la raison avant le retour du soleil et de la chaleur. Son propre comportement, les comportements de Zoé et de Théo, l'inquiétaient presque autant que les accès de folie du Grax. Zoé se montrait aussi agressive avec son frère et sa mère qu'avec Jim. Théo se murait dans un mutisme de plus en plus compact, retiré dans des mondes inaccessibles. Elle-même ne parvenait plus à accorder ses pensées et ses actes, scindés en deux, comme si son esprit et son corps n'appartenaient plus à la même personne. Les visions de son fils, ces histoires de chiens féroces se métamorphosant subitement en ange protecteur, cette fillette muette dotée de pouvoirs surnaturels, cette marche interminable dans un environnement où pas un être humain ne pouvait survivre, semblaient tout droit sortis des univers de fantaisie et des mangas qu'il explorait du matin au soir. Il ne parlait plus qu'aux deux fouines, qu'il nourrissait chaque jour des restes de ses repas. Alice l'avait suivi et s'était assise dans l'escalier pour écouter ce qu'il leur disait. Elle n'avait pas compris un traître mot dans ses fredonnements, ses sifflements, ses onomatopées, ses borborygmes et ses claquements de langue. De loin, on aurait dit un déséquilibré en train de soliloquer. Mais sa voix avait l'art d'apaiser les deux captives, qui le reste du temps s'agitaient sans relâche entre les barreaux de la cage en poussant des couinements stridents. Elle se tenait tranquille tant qu'il restait dans la cave, même lorsqu'il s'exerçait au tir à l'arc avec une obstination rageuse, plantant ses flèches dans les cibles grossièrement dessinées sur les cartons. Il profitait des moments d'absence du Grax pour durcir les pointes dans le feu du poêle et fabriquer de nouveaux empennages, en suivant la notice autrefois récupérée sur Internet. Internet. Le monde d'avant. Le monde de la technologie triomphante. Le monde du virtuel qu'on célébrait. Le monde des réseaux. Avait disparu à la vitesse d'un songe, cueilli par l'abaissement brutal de la température. comme les dinosaures des millions d'années auparavant. Alice ne parvenait pas à se reconnecter avec sa vie d'avant. Elle doutait de ses propres souvenirs, de la même manière qu'elle doutait des visions de Théo. Elle ne parvenait même plus à reconstituer l'image de Franks, sa silhouette, son visage, sa voix, son odeur. Elle n'avait de leurs étreintes, de leurs disputes, de leurs joies, de leurs peines, que de vagues réminiscences. Il s'effaçait d'elle, tout comme les trois autres familles du feu de Dieu, comme ses parents, comme son enfance, comme son premier amour. Sa mémoire s'en allait d'elle par lambeaux. Était-ce l'effet du bombardement magnétique dont avait parlé Franks? Une dégénérescence accélérée? Elle s'en était ouverte à Zoé. « C'est exactement la même chose pour moi », avait répondu sa fille. « J'ai l'impression d'avoir rêvé toute ma vie d'avant le cataclysme. Tu ne te souviens pas de ton père ?»« Des fois oui, des fois non. Pareil pour mes copines et leurs parents. C'est comme si la nuit effaçait tout. Comme si on n'avait plus de passé, plus de futur, qu'on était déjà mort. » Nous sommes pourtant bien vivantes. T'appelles ça une vie, toi? J'envie Ludo et les autres pauvres types qui ont essayé de prendre d'assaut le feu de Dieu. Ils paraissaient soulagés d'en avoir fini avec cette galère. Si papa avait été moins prévoyant, on serait pas là en train de trembler comme des connes, de peur et de froid. C'est pas très gentil pour lui. Bah, ça m'a aidé à comprendre cette expression, tu sais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu crois encore qu'il reviendra? Zoé avait haussé les épaules d'un air courroucé. Avec sa moue boudeuse, ses cheveux hérissés, sa mine chiffonnée, elle ressemblait par instant à un buisson d'épines ébouriffé par le vent. « Comment veux-tu que je le sache? Je m'appelle pas Théo, moi. Je suis qu'une fille ordinaire. Je te demande justement ce que tu penses de ces visions. » Zoé avait marqué un temps de silence, les yeux rivés sur le bois de la table. Alice la trouvait parfois jolie et parfois ingrate, frappée de disgrâce. C'était pourtant la même fille, avec les mêmes yeux transparents, la même peau claire, les mêmes lèvres pulpeuses, les mêmes cheveux bruns et ondulés. La beauté est dans l'œil de celui qui contemple. Alice ne se rappelait pas où elle avait puisé cette phrase, mais elle constatait qu'elle s'appliquait souvent à son cas. « J'y crois pas toujours. L'autre jour, pourtant, il nous a donné la preuve que ça marchait. Tu veux dire, lorsqu'il m'a prévenu que les rôdeurs tentaient de s'introduire par la cave ?» Zoé avait hoché la tête. D'un autre côté, on dirait qu'il part dans des plans totalement délirants. Je peux pas trier le vrai du faux là-dedans, je suis pas dans sa tête. À propos de tête, tu écris toujours ton journal? Pourquoi? T'as pas encore tout lu? Alice avait battu en retraite, traquée par le regard insolent de l'adolescente. Elle avait tout lu. Enfin, tout ce que Zoé avait écrit d'une écriture appliquée, dans le cahier rangé dans le tiroir de sa table de chevet. Mais elle restait persuadée que son journal ne reflétait ni la personnalité, ni l'intimité de sa fille. Qu'il n'était qu'un ersatz, pire, un leurre. « Ça caille à mort !» grogna le Grax. « Va falloir allumer le troisième poêle !» L'écrissement des flocons presque durs sur la baie vitrée dominait les sifflements du vent et les craquements des bûches dans les foyers. Les bougies dispensaient une lumière ambrée, d'où émergeaient comme des masques inquiétants les visages de Jim et des enfants assis autour de la table. « Il faut encore attendre », objecta Alice. « Nos réserves de bois diminuent déjà trop vite. C'est moi qui m'en occuperai si tu veux pas. » Les fêlures dans la voix du Grax trahissaient une soudaine tension qui incita Théo à se reculer prudemment sur sa chaise. « La procédure prévoit que... »« La procédure, t'as qu'à te la mettre où je pense. Et puis, il y en a marre qu'une cinglée de ton genre fasse la loi dans cette baraque. Je fais pas la loi, je... » Le Grax frappa le bois de la table du plat de la main. Les verres et les assiettes s'entrechoquèrent. Il se leva, saisit Alice par les cheveux, la renversa sur sa chaise et la traîna sur le carrelage en direction de la porte de la buanderie. Elle hurlait, se débattait. Il ne la lâcha pas. « J'en ai plein le cul de toi !» Alix tenta de se remettre debout. La douleur vive qui montait de ses vertèbres cervicales, de ses omoplates, de son cuir chevelu et la poigne du Grax l'en empêchèrent. Elle entrevit ses enfants pétrifiés sur leur chaise à l'autre bout de la grande pièce, silhouette minuscule et floue dans la lumière ambrée des bougies. Puis elle fut projetée violemment contre un mur. Le choc lui coupa le souffle. Elle eut une vague sensation de froid, elle entendit un claquement de porte, un grincement métallique. L'obscurité l'ensevelit. Elle eut besoin d'un peu de temps pour prendre conscience qu'il l'avait bouclée dans la buanderie. Un courant d'air glacé provenait de la porte blindée qui donnait sur la cour. La température dans la pièce n'excédait pas les 7 ou 8 degrés. Elle se souvint avec une netteté étonnante, presque nauséeuse, Des heures éprouvantes passées à surveiller cette porte ébranlée par les martèlements des rôdeurs affamés. Elle ne disposait pas cette fois de couverture ni de manteau pour supporter le froid. Elle se releva dès qu'elle en eut la possibilité pour vérifier l'état de son corps. De simples contusions aux côtes, aux jambes, aux hanches. Elle se rapprocha à tâtons de la porte intérieure qu'elle ne parvint pas à ouvrir. Des éclats de voix suivis de bruits de pas précipités et de cris transpercèrent le panneau de bois. Elle poussa un cri de rage. Ses enfants étaient seuls de l'autre côté, face au Grax. Le froid l'enveloppait déjà comme un suaire. Elle donna un coup d'épaule dans la porte sans réussir à la bouger d'un millimètre. Franks avait insisté sur la qualité des matériaux du feu de Dieu. Murs, huisseries, charpentes, carrelage, faïence, électricité, plomberie. Disant que leur survie en dépendrait en grande partie. Et les portes étaient à l'image de l'ensemble de la construction. Solide. Inébranlable. Elle resta un moment à l'écoute des bruits. Elle n'entendit rien d'autre que le grésillement des flocons sur le métal du blindage et les mugissements du blizzard. Elle pensa que le Grax aurait rapidement besoin d'elle, ne serait-ce que pour préparer le prochain repas. Elle continua de bouger, de lutter contre l'engourdissement, puis elle tambourina rageusement sur la porte, jusqu'à ce qu'épuisée, elle se laisse glisser sur le sol. Elle tenta de préserver sa chaleur en se recroquevillant sur elle-même. Une sensation de mouvement et un chuchotement l'attirèrent de sa torpeur. Ses pensées peinèrent à se frayer un chemin dans son cerveau gelé.
« Maman !» La voix de Zoé. « J'ai pas beaucoup de temps. Le Grax nous a interdit de t'ouvrir la porte. Il dit qu'il te laissera enfermer là-dedans jusqu'à ce que t'aies compris la leçon. Il dort maintenant. Je t'ai emmené deux couvertures, un coussin, de quoi boire et manger. Et aussi une lampe et une bassine au cas où t'en aurais besoin. Faut que j'y aille. L'autre dingue est d'une humeur massacrante. Il a ordonné à Théo de tuer les fouines, le microbe a refusé, alors il lui a mis une grosse trempe. »
Alice se redressa et s'efforça de maîtriser les tremblements de ses lèvres.
Il n'est pas blessé? Il a seulement saigné du nez, mais je l'ai soigné et ça va. J'ai eu peur. J'ai bien cru qu'il allait le tuer. Ah oui, le Grax a allumé le troisième poêle. Bon, j'y vais. Je suis obligé de refermer la porte.
Zoé déposa un rapide baiser sur la joue de sa mère et s'éclipsa. Alice alluma la lampe, s'enroula dans les couvertures, mangea les morceaux de pain et de fromage disposés dans trois feuilles d'essuie-tout et but l'eau au goulot de la bouteille en plastique. Régénérée, elle se réchauffa peu à peu et se détendit. Elle s'allongea aussi confortablement que possible, posa la tête sur le coussin et s'endormit. Elle se réveilla quelques secondes avant qu'un cri perçant ne déchire le silence et ne lui glace le sang.